7h30, mercredi 23 janvier, c'est parti pour le journal avec Anne-Laure Guffroy, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Il sera question ce matin de nucléaire, alors que la commission de secret défense a décidé au mois de décembre de déclassifier un certain nombre d'archives relatives aux essais nucléaires en Polynésie. Que peut-on attendre de cette ouverture? Nous tenterons d'en savoir plus avec Bruno Barillo, délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires en Polynésie. L'homosexualité fait parler d'elle. L'université de Polynésie a organisé hier une matinée d'information sur le sujet. Vous entendrez le témoignage de quelques étudiants. Et puis, l'heure du conte fait sa rentrée cet après-midi à la Maison de la Culture avec l'histoire de Grande Étoile. Petit avant-goût en fin de journal.
Alors, Gary devrait épargner la Polynésie.
La tempête tropicale, ne s'est pas encore transformée en cyclone. Elle se situait hier à 2100 km à l'ouest de Tahiti et devrait arriver à 1100 km à l'ouest de Tahiti vendredi après-midi. La trajectoire empruntée par Gary laisse penser que la Polynésie sera épargnée par le phénomène. Mais les erreurs sur la prévention des trajectoires cycloniques au-delà de 3 jours pouvant être supérieures à 500 km, il faut rester vigilant. Les prévisionnistes de Météo France continuent de suivre avec attention l'évolution de cette perturbation tropicale.
Que peut-on attendre de l'ouverture des archives nucléaires?
Lors de sa visite dimanche, le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a évoqué la question du nucléaire avec Anthony Géraud, le vice-président du pays. Le ministre a affirmé que la levée du secret défense sur certaines archives était une réelle avancée, plus encore que l'élargissement de la loi Morin à toute la Polynésie et l'élargissement du nombre de maladies radio-induites. 58 documents pourraient en effet être déclassifiés, des documents qui portent sur la période des essais aériens en Polynésie. Mais si la commission de la Défense nationale a donné un avis favorable à cette ouverture, il faudra toutefois attendre la décision du ministre de la Défense. Pour Bruno Barillo, délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires en Polynésie, cela représenterait en effet une réelle avancée. Il nous explique ce que l'on pourrait découvrir à la lecture de ces documents.
Par rapport à un certain nombre de documents qui sont un peu similaires, c'est-à-dire des documents du contrôle biologique ou des documents de la sécurité radiologique des années 1966 et 1967 qui étaient sous couvert du secret et qui ont été, rendus publics par un journaliste, il y a des choses intéressantes, certainement. Pour vous donner un exemple, c'est comme ça qu'on a eu le fameux rapport du docteur Millon sur Mangareva à la suite du premier tir du 2 juillet 1966, où on s'est rendu compte que quasiment les retombées du premier tir français en Polynésie ont été vraiment une catastrophe nucléaire sur les Gambiers. À peu près analogue, disons, aux retombées qu'on trouve dans la zone interdite autour de Tchernobyl. Parmi les documents qui vont être déclassifiés, on peut trouver des documents de ce type-là, et on l'espère.
Ces documents pourraient donner des arguments pour modifier la loi Morin et notamment étendre les zones géographiques retenues pour l'indemnisation des victimes. L'accession aux dossiers personnels jusqu'alors protégés pourrait également permettre aux victimes de prouver leur exposition aux radiations meurtrières.
Il a frappé sa vaillée enceinte et il a fini à Nutania.
Les faits remontent au 22 novembre dernier à Mahina, une femme âgée de 38 ans, enceinte de 6 mois et victime de violences de la part de son conjoint. C'est le centre hospitalier où elle a été soignée qui a transmis le signalement de l'homme au procureur de la République. La victime n'a quant à elle déposé plainte que le 7 janvier lors de son audition. Et lundi, son conjoint, âgé de 26 ans, a été entendu sous le régime de la garde à vue pour des violences aggravées. Il a été présenté hier devant le procureur de la République, puis est comparé devant le tribunal. L'homme a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, mise à l'épreuve et obligation de soins.
Homosexualité, si on en parlait.
L'Université de Polynésie a organisé hier matin un forum de discussion sur le thème de l'homosexualité en Polynésie française. Un débat qui entre dans le cadre des conférences et matinées d'ateliers organisées tout au long de l'année et portant sur des sujets d'actualité. Alors que l'homosexualité mal assumée est une des premières causes du suicide chez les adolescents, il semblait important que le débat ait lieu. C'était en tout cas le choix des étudiants qui l'ont plébiscité. Alors nous avons voulu savoir si cette orientation sexuelle les choquer ou les déranger, on les écoute.
Il y a les problèmes du respect de la différence.
Personnellement, je trouve pas ça dérangeant. Bon, après, surtout quand on est jeune, c'est un sujet difficile à aborder.
Je ne comprends pas déjà pourquoi il y a des gens intolérants. Je pense qu'ils devraient s'afficher ouvertement.
Moi, je trouve pas que c'est dérangeant. Moi, je trouve que chaque personne a sa personnalité. Ça serait bien pour les élèves de connaître
ce que c'est l'homosexualité en réalité, si ça dérange, si ça dérange pas.
Je vois pas pourquoi ça me dérangerait parce que je comprends pas les gens qui enfin un mauvais point de vue sur ça quoi.
Pour moi ça me dérange pas du tout, c'est le problème, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Ici c'est vrai que c'est pas évident, on a été élevé à la Tyson, donc c'est un peu par rapport à notre éducation aussi qui fait que voilà, ça devient difficile d'accepter, mais en tant qu'étudiant je me dis que on doit être libre d'esprit et il faut changer de mentalité.
On va dans une société où c'est vraiment l'égalité pour tous, donc on abat tous les obstacles à une tolérance universelle, je pense.
Et pour l'occasion, l'association Cousins Cousines était présente pour répondre aux questions des étudiants, mais aussi des parents. Une association que vous pouvez retrouver via les réseaux sociaux ou joindre au 76 98 71.
Les professeurs dans la rue cet après-midi.
Suite à l'appel national du premier syndicat de l'enseignement professionnel, l'antenne polynésienne du SNETA-EFO suit le mouvement de grève organisé aujourd'hui en métropole et dans tous les départements et territoires d'outre-mer. En cause, la réforme de l'enseignement professionnel inscrite dans le projet de loi sur la refondation de l'école qui devait être présentée aujourd'hui au Conseil des ministres à Paris. Nicolas Broséus, le secrétaire territorial du SNETA-EFO, nous rappelle les raisons de leur colère.
En fait, il y a différents points dans cette loi qui nous déplacent fortement, à savoir le développement de l'apprentissage à outrance. Le deuxième point, c'est la modification des bacs pro, qui, en l'espace de quelques années, sont passés d'une formation en 4 ans à une formation en 2 ans que veut proposer le ministre Payan. Puis le troisième point, c'est la volonté de donner aux régions la carte des formations, ce qui sous-entend que les diplômes seront principalement régionaux et non plus nationaux, comme nous l'avons toujours souhaité et comme devrait le présenter la République, quoi. J'invite vraiment tout le monde à montrer la colère qui nous anime et à éviter l'enterrement de l'enseignement professionnel.
Et à noter que le point de ralliement est prévu à 14h cet après-midi devant le vice-rectorat.
AO découvre les travaux de la Living Oceans Foundation.
La fondation a présenté ses travaux scientifiques lundi aux élus de AO, des travaux d'études relatives aux récifs coralliens qu'elle mène depuis 6 mois en Polynésie française et depuis quelques jours à AO. Et hier, c'était au tour de 24 élèves des collèges et de l'antenne de la maison familiale rurale de l'atoll de visiter le bateau scientifique. Les élèves ont ainsi pu découvrir des enjeux de la préservation des récifs coralliens. La fondation poursuivra ses travaux de recherche scientifique en Polynésie française jusqu'au mois d'avril. Elle réalisera ensuite un rapport complet de ses études, incluant ses recommandations.
Fin du voyage pour une bouteille à la mer.
Une famille kiwi a découvert une bouteille jetée à la mer 76 ans plus tôt par un Australien. Une belle histoire que nous raconte notre correspondant en Nouvelle-Zélande, Jérôme Gavel.
Geoff Flood était en train de pêcher sur la plage de 90 Miles Beach dans l'île du Nord lorsqu'il a trébuché sur la bouteille. Il a de suite vu qu'elle contenait un message. Mais c'est seulement quand il a réussi à extraire la feuille de papier de son flacon qu'il a réalisé que sa découverte sortait de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce que la bouteille avait été jetée à la mer en mars 1936. Quel parcours la bouteille a-t-elle effectué durant sa navigation longue de 77 ans ? Nul ne le saura sans doute jamais. Ce qui est sûr, c'est que le message était signé d'un Australien. L'homme avait jeté la bouteille alors qu'il se trouvait à bord d'un paquebot naviguant au large de la côte est australienne. Il demandait au découvreur de la bouteille de lui signaler où et quand son message avait été trouvé. Geoff Flood a donc suivi cette consigne, mais pour réaliser que son auteur était décédé dans les années 40. Le Néo-Zélandais a finalement pu retrouver le petit-fils de l'auteur du message, un homme qui n'a jamais connu son grand-père, mais qui maintenant possède au moins quelques lignes écrites de la main de son aïeul. Auckland, Jérôme Gavel, Radio 1.
Petits et grands, découvrez l'histoire de Grande Étoile.
Grande Étoile, c'est le titre du conte choisi pour la première heure du conte de l'année cet après-midi à la Maison de la Culture. À la narration, on retrouve Léonore Canéry. Elle vous en donne un avant-goût.
C'est l'histoire de 3 enfants qui ont été abandonnés et qui ont été recueillis par une famille. Et évidemment, la personne qui les a abandonnés à un moment donné a quand même un peu de remords et passe à leur recherche et... Il ne veut pas dire la vérité. Voilà. Et évidemment, les enfants, ils perdent leurs parents nourriciers, leurs parents femmes, et ils se demandent vraiment d'où ils viennent. Donc, il y a les deux qui se combinent, là, et il va se passer un truc. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Il se passe plein de trucs, c'est toute une quête, en fait, hein, pour connaître la vérité, pour trouver ses origines, retrouver ses racines, etc., etc.
Et pour connaître la suite, rendez-vous donc cet après-midi à 14h30 à la bibliothèque Enfants de la Maison de la Culture. L'entrée est gratuite et ouverte aux enfants de 3 à 103 ans.